De l'album Opéra Puccino, alors il y en a une palanquée, hein, dirait ma grande tante, des albums de Oxmo, OXMO, qui sera présent donc à Ça sonne à la porte, rien que cela, le dimanche. On rappelle, hein, 5, 6, 7 juin, on passe de 2 à 3 jours, par contre on ne change pas, en totale gratuité, toujours et encore, deux scènes majestueuses, de quoi vous nourrir, de quoi vous restaurer, de quoi vous abreuver, et puis toujours un événement incroyable, avec une jauge à 15 000 hein, par jour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils sont à 4 999 avant de rentrer, et qu'ils seraient pourtant que 18h ou 19h ou 20h, bah faudra attendre que des gens sortent, mais voilà, un si bel événement, il faut en être fier, bravo à celles et ceux qui y contribuent, et qui nous proposent une très chouette programmation, comme c'est le cas chaque année, avec des noms un petit peu installés, et puis beaucoup de nouveautés et de découvertes, et de choses à découvrir. Et bien là, en l'occurrence, on parle d'un grand monsieur de l'histoire de la musique, on parle de Oxmo Puccino, un grand lyriciste, presque un poète, voilà, du microphone, et le titre, en l'occurrence, Sacré Samedi Soir, que moi j'adore, que je voulais vous partager, il jouera le dimanche hein, à grosse œuvre, voilà, en totale gratuité, soyez curieuses et curieux, je vous en dirai pas davantage.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio, alors, sans être...
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
C'est nous et c'est bien nous en compagnie de l'illustre Nico Ferrer, hein, voilà, qui vous en dit toujours plus sur quoi faire ou quoi dire ou quoi penser. Et puis bien sûr on est en compagnie, si vous venez de nous rejoindre, de Louis Jacquot, directeur des opérations sportives de la LM Évreux, basketteur, club professionnel de basket, un club qui est ancestral dans la division, parce que ça se tire un peu la bourre avec Aix-Maurienne pour le nombre d'années au plus haut niveau. Mais franchement, c'est Évreux, c'est sûr et certain.
Oui.
Là, on a le droit d'être un peu cocardien des fois. Ou franchouillard, on a beaucoup parlé de ta passion, parce que ça dépasse un cadre professionnel, un métier atypique, comme le mien, potentiellement. Hein.
Ouais.
Comme le métier de chroniqueur de talent, monsieur Nico Ferrer. On a parlé un peu du contenu de ton travail, on a parlé un peu de comment tu es venu, on a parlé de l'ALM et de sa petite masse salariale, mais en même temps de ce club qui est familial, qui est différent des autres, qui n'est pas mieux, qui n'est pas moins bien, qui est différent, qui joue avec ses armes. Il y a quand même eu ces derniers jours une actualité dense qu'on a retrouvée sur les sites spécialisés du basket français nationaux.
Ouais.
En l'occurrence, on va revenir sur cette rencontre. Il y avait deux matchs il y a 10 jours de cela à Évreux, contre Denain puis contre Nantes. Malheureusement, deux défaites et des matchs accrochés, où Évreux a loin été d'être ridicule. Et puis une réserve de poser. C'est quoi, c'est une réserve?
Alors, une réserve, c'est une possibilité pour l'un des clubs, pour le cas, là, c'était nous, donc de déposer donc, une réserve après la rencontre auprès des arbitres et des officiels de table de marque sur quelque chose auquel on n'est pas d'accord. On pense que le règlement n'a pas été appliqué, n'a pas été vu, et on demande une réserve et que ce soit étudié.
C'était pas la tenue vestimentaire de l'entraîneur Abroïcien, c'était pas... un changement de couleur de tenue des arbitres, ni Daniel qui était non maquillé.
Exactement.
C'était un souci légal concernant l'entraîneur adverse.
Exactement. On apprend avec Marc, donc le coach de l'équipe, que 48 heures avant, que le coach donc de Denain, l'équipe qu'on a affrontée 48 heures après, était suspendu pour notre match. Pourquoi? C'était par rapport à leur rencontre face à Orléans. Il aurait tenu des propos, mais on va pas s'étaler.
Ouais, c'est pas.
C'est pas
votre histoire.
Les
faits sont là, il est suspendu face à vous.
Exactement. Donc on se pose des questions, et puis le jour du match, on le voit arriver. Un peu interrogatif. On se dit, il est suspendu, mais quel va être son rôle en fait finalement? Donc les heures passent, je le vois toujours là, dans la salle. Et puis au bout d'un moment, en fait on le voit actif, si tu veux. Il n'est pas sur le banc, il est dans les tribunes, mais il coach, il passe des instructions, il demande des temps morts, il a une intervention directe sur le jeu. Sa suspension, elle était très simple, c'est qu'à partir du moment où tu lui es suspendu, tu ne peux avoir aucune interaction, aucune communication avec ton banc, avec tes joueurs, tu n'as pas le droit d'aller dans les vestiaires, une heure avant, pendant, une heure après, il faut que tu n'aies aucune influence sur
ça,
le jeu.
Ça n'a pas été respecté non plus.
Pas du tout. Et c'est là-dessus que nous, on a déposé une réserve. On a des vidéos, on le voit, passer des instructions, demander des temps morts, parler avec ses joueurs, avec ses assistants, Donc les règles n'ont pas été respectées. Et c'est exactement les propos que j'ai tenus devant la commission de discipline parce qu'on est passé devant la LNB à Paris. J'ai dit, on veut simplement que l'équité sportive soit respectée. Il y a un règlement, qu'il soit appliqué. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Nous, on ne nous fait pas de cadeaux. Et juste pour le petit rappel qui est un peu drôle, c'est que Quimper, qui est donc 19e au classement, qui est juste derrière nous, avec lesquels on se bat pour le maintien, eux ont profité d'une victoire sur tapis vert en début de saison. Donc en fait, bah, juste pourquoi pas nous ? Le règlement a été accepté pour eux, il faut qu'il le soit pour nous.
Et puis vous étiez dans votre bon droit.
Exactement.
D'ailleurs, j'ai lu sur les réseaux hein, que beaucoup de gens ne taclent pas cette décision, qui est une décision juste et des faits établis.
Ouais.
Mais que le plus simple, ce serait peut-être tout simplement d'interdire de salle l'entraîneur. Ça risquerait, comme ça, il n'y aurait pas de soucis, il n'y aurait pas de, soucis, aurait pas de sujet.
Oui, je suis d'accord. Ouais.
Voilà. Bravo pour cette gestion et ce regard professionnel. C'est déjà la fin de la matinale. Une anecdote sympa quand même dans l'année, parce que bon, ça c'est un bon souvenir. Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y a un joueur qu'on n'a pas envie de perdre Dorian fait comment pour le garder ? S'il vous plaît, monsieur Anthony Da Silva et Dorian Gloma, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que si je les invite à la radio et je leur propose de leur prêter mon matériel, est-ce que si je leur offre de temps en temps, non pas un
est-ce comment, quand... On les aime bien. Je peux pas tout vous dire. Je vais vous lâcher une info ou deux. On ne veut pas retourner dans les travers de l'ALM d'il y a 1, 2, 3 ans. C'est-à-dire qu'on ne veut pas repartir à blanc. On essaye et on met tout en œuvre pour repartir avec un noyau et d'essayer de recréer cet ADN hébroïcine.
Eh bien, ce serait génial. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, très cher Nico Ferrer. On est obligé de rendre l'antenne puisque c'est déjà le Flash Info. Merci d'être venu, c'était avec cool. Eh, bye bye.
Journal. Et à la une, l'Iran n'a même pas commencé son bras de fer avec les États-Unis. Les mots à l'instant du président du Parlement iranien au lendemain d'un regain de tension entre les deux pays. Des frappes iraniennes sur les pays du Golfe pour la première fois depuis le début du cessez-le-feu. Des accrochages dans le détroit d'Hormuz. Alors que la marine américaine a entamé hier une opération pour escorter des navires qui y sont bloqués. Washington et Téhéran se livrent à une bataille de récits sur ce qui s'est passé hier. Le détroit d'Hormuz que la France pourrait aider à sécuriser une fois la guerre finie. En attendant, le porte-avions Charles de Gaulle est déployé depuis plusieurs semaines en Méditerranée pour sécuriser la zone. C'est notre dossier de ce matin. Retour de reportage avec Franck Alexandre. À la une également, un sommet Arménie-Union Européenne à Yerevan aujourd'hui et l'UE qui vient en aide au pays pour sécuriser ses prochaines élections face aux menaces d'ingérence de la Russie. Des élections aussi en Inde et le verrou du Bengale oriental qui saute pour Narendra Modi. Et puis au moins 26 morts et 61 blessés en Chine. Une explosion dans une usine de feux d'artifice relance les questions sur le contrôle des risques dans cette industrie stratégique pour le pays.
Des frappes sur les pays du Golfe pour la première fois depuis le cessez-le-feu, des accrochages hier dans le détroit d'Hormuz, la trêve entre l'Iran et les États-Unis mise à rude épreuve.
Alors que l'Iran prévenait hier qu'une intervention américaine entraînerait une réponse, promesse tenue, après le début de l'opération ordonnée par Donald Trump pour escorter des navires bloqués dans le Golfe à travers le détroit, Washington dit avoir ouvert la voie à deux navires et détruit 6 bateaux iraniens ainsi que des drones et des missiles. Les gardiens de la révolution affirme qu'aucun de leurs navires n'a été détruit, mais accuse les États-Unis d'avoir tué 5 civils en ciblant des embarcations parties d'Oman. L'Iran revendique aussi des tirs de missiles en direction de la marine américaine en guise d'avertissement. Au-delà des accrochages physiques, la bataille des récits se poursuit donc dans le détroit et c'est dans l'intérêt de l'Iran, nous dit le chercheur Rachid Chaker.
Il est vrai qu'il est assez difficile de croire les acteurs, puisqu'on est avant tout dans une guerre dans l'information. Par exemple, on se souvient que les Iraniens, il y avait quelques semaines, ils avaient annoncé qu'ils avaient réussi à toucher le porte-avions américain qui était positionné dans le Golfe. Les Américains ont démenti. Et quelques semaines après, on a appris qu'effectivement, un porte-avions américain endommagé avait été réparé à Chypre. En tout cas, avait dû accoster à Chypre. Donc en fait, des deux côtés, il y a une guerre de l'information. Mais ce qui est normal, et notamment du côté iranien, car les Iraniens ont bien compris que dans le Golfe, c'est une guerre psychologique. Autrement dit, on s'adresse à des acteurs privés, les armateurs, ceux qui transportent des biens commerciaux, ceux qui transportent des hydrocarbures, et que le simple fait de brandir de menaces ou d'annoncer qu'on a touché un navire américain, que ce soit vrai ou non, suffit à produire un effet psychologique qui qui de fait bloque le détroit d'Ormuz. Donc en fait, c'est surtout les Iraniens qui ont intérêt à avancer cette propagande, qu'elle soit vraie ou non, parce qu'ils savent que justement, que ce soit vrai ou non, l'effet psychologique sera là.
Rachid Chaker, chercheur à l'Université catholique de Lille, avec Oriane Verdier. Ce matin, le groupe de transport de marchandises Maersk affirme que l'un de ses navires a pu quitter le détroit et les condamnations pleuvent contre Téhéran, venues notamment de l'Union européenne, de la France et du Royaume-Uni, alors que l'Iran a mené, je vous le disais, de nouvelles attaques contre les pays du Golfe. À Oman, 2 blessés dans une attaque sur un immeuble résidentiel. Aux Émirats Arabes Unis, 3 blessés et un incendie sur le site pétrolier de Fujairah. Les Émirats affirment aussi avoir été visés par 4 missiles iraniens et dénoncent une escalade dangereuse. L'Iran évoque une conséquence de l'aventurisme militaire américain. Son chef de la diplomatie appelle les États-Unis à privilégier la diplomatie au lieu de se laisser entraîner dans un bourbier.
La guerre au Moyen-Orient qui a bouleversé les plans de la marine française.
Le porte-avions Charles de Gaulle se dirigeait fin février vers la mer de Norvège pour une mission. Il a finalement pris la route de la Méditerranée orientale où il se trouve depuis et c'est notre dossier de ce matin. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Julien.
Vous rentrez d'un reportage à bord du Charles de Gaulle positionné au large de Chypre. Il est aujourd'hui un outil de réassurance sur le flanc sud de l'espace européen.
En effet, parti fin janvier de Toulon, le porte-avions a été rerouté en urgence pour une mission de sécurisation dans une région en crise. Amiral Thibault de Possas, c'est le commandant de l'état-major embarqué du groupe aéronaval.
Le groupe aéronaval a été déplacé par le président de la République et nous sommes arrivés après une bascule très rapide, 6 jours, 6000 km. Nous sommes arrivés ici le 9 mars dernier pour incarner la volonté de la France de défendre le flanc sud de l'Europe. Chypre a été attaqué par des missiles balistiques des Iraniens. Le président nous a demandé de défendre nos emprises au Proche et au Moyen-Orient et puis d'être en mesure de défendre nos ressortissants le cas échéant.
Voilà, les rafales sont à l'aplomb du porte-avions.
Donc là, ils sont en train de revenir de leur mission Mars Strike. Ils orbitent autour du porte-avions et donc ils se configurent petit à petit pour se préparer à l'appontage.
La vingtaine de rafales embarquées peut être projetée à 2000 km du Charles de Gaulle, précise l'officier de pont, et cela permet d'avoir un œil sur tous ceux qui naviguent dans la région, pointe le pacha du porte-avions Thomas Puga.
On a vu un Chinois passer, évidemment les Russes sont présents à Tartous, et ensuite bien sûr nos alliés de l'OTAN, mais aussi des partenaires de la région qui naviguent, les Israéliens sont en mer, voilà, il y a beaucoup de monde en mer. Et plus on se rapproche d'Israël, plus on se rapproche de la côte libanaise, évidemment, et on voit forcément le trafic qui évolue, les sorties de Suez, c'est souvent un indicateur également, donc ce qui permet d'avoir un peu le thermomètre de la région et de la crise.
Franck, dans cette mission, le Charles de Gaulle n'est pas seul.
Dans son escorte, il y a une frégate néerlandaise et une italienne. Si le groupe n'a pas eu à ouvrir le feu, cela reste un signalement stratégique, insiste l'amiral de Possès.
Un porte-avions, c'est un agrégateur de moyens. C'est beaucoup plus efficace d'un point de vue stratégique pour ceux qui n'en ont pas de venir s'agréger et participer à ce groupe aéronaval avec une frégate, avec un pétrolier, avec un hélicoptère, avec quelques officiers de liaison, que simplement d'aller avec un bateau tout seul, essayer d'avoir une posture stratégique dans la zone. Et donc, le porte-avions, le groupe aéronaval, est un agrégateur de coalition qui permet de démultiplier les effets militaires. Et donc, c'est seulement à cette aulne-là qu'il faut mesurer l'effet que l'on a ici. Cette flexibilité, en utilisant la neutralité de l'espace maritime, on peut la reproduire demain si le chef d'état-major des armées le souhaitait, pour aller basculer, soutenir une opération de liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz sans difficulté.
3 mois de mer au compteur, Julien, et peut-être un peu plus si le Charles de Gaulle devait sécuriser Ormuz. Ça commence à piquer, disent les 1800 marins du porte-avions.
Franck Alexandre, pour notre dossier du jour, merci beaucoup. Et les derniers développements du conflit au Moyen-Orient sont à suivre minute par minute dans notre direct sur RFI.fr.
Il est 11h07 à Yerevan, la capitale arménienne qui accueillait hier le sommet de la communauté politique européenne.
Avant d'accueillir aujourd'hui un sommet bilatéral, cette fois entre l'Union européenne et l'Arménie, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Antonio Costa, réuni autour du Premier ministre Nicole Pachignan. Emmanuel Macron, qui effectue lui une visite d'État dans le pays, salue son choix de se tourner vers l'Europe pour s'affranchir de la Russie. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'Arménie assume aujourd'hui son pivot diplomatique pour se détourner de Moscou. Mais pas question pour le Kremlin d'abandonner aussi facilement sa zone d'influence dans le Caucase. Le pouvoir russe menace de perturber les prochaines élections en Arménie le 7 juin. L'UE va donc annoncer aujourd'hui plusieurs réponses à la demande de Yerevan, Julien Chavanne.
Ingérence, cyberattaque, campagne de désinformation, l'Union européenne se prépare à toutes les menaces. Une mission d'observation du Parlement européen se rendra d'abord sur place pour contrôler le déroulement du scrutin. L'eurodéputée centriste de Renew, la française Nathalie Loiseau, en fera partie.
Vladimir Poutine a envie de remettre la main sur l'Arménie comme il a réussi à le faire sur la Géorgie voisine. Et il y a des ingérences russes déjà maintenant dans la campagne qui précède les élections du 7 juin qui sont massives.
Et en plus de cette mission d'observation, le jour J, l'UE va envoyer une équipe de 20 à 30 experts civils pour une mission de 2 ans après le vote. L'Arménie est désormais un pays qui compte pour les 27 et pour Nathalie Loiseau, c'est surtout grâce à la France.
C'est une forme de satisfaction du travail accompli par un certain nombre d'entre nous, je dirais nous Français qui avons réussi à mettre l'Arménie sur la carte des Européens. Depuis quelques années, nous avons réussi à convaincre nos partenaires européens de venir en aide à ce pays et ce peuple qui mérite de pouvoir construire un avenir autrement que dans la tragédie et dans la violence et qui s'en donne les moyens.
Les Européens veulent éviter à tout prix un scénario à la géorgienne et ils déploient cette fois les grands moyens.
Julien Chavanne.
Ces élections-là ont rendu leur verdict hier.
En Inde, le Premier ministre Narendra Modi étend son emprise politique, son parti le BJP, conforté par les résultats des élections locales dans 5 régions. Le mouvement au pouvoir depuis 12 ans maintenant, c'est imposé largement dans 3 de ses États. Mais sa victoire est particulièrement marquante au Bengale occidental, car le BJP, qui prospère sur un discours anti-musulman très virulent, a obtenu la radiation de 9 millions d'électeurs, accusés d'être des migrants de confession musulmane en situation irrégulière, et donc indûment inscrits selon le BJP sur les listes électorales.
looking for a kick.
You wanna kick?
À cette station, shérif. Il suffit de couper le courant.
Mais vous n'y pensez pas, docteur. On ne coupe pas une telle courbe démographique. C'est le plus fort taux d'audience de toute l'histoire de la radio.
Ne soyez pas si égocentrique.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Débrancher la radio. Oh nom de Dieu, il a perdu la tête.
Señores, qué cosa es cosa, y dicen que es muy lejos.
pilote ni dans ce rap. J'ai refusé d'avance au pays des MC Wack. Rap attitude brisée en un seul track. L'industrie m'a washé guéri sur mon maxi. Ils auront Marseille, Saint-Denis mais pas le 18 de Paris. Donc dès le départ, parcours du combattant. Premier indépendant dans ce putain de mouvement. Premier disque d'or pour un indépendant. L'homicide volontaire, regarde les tas de voix qui ment. Ils ont oublié les racines, on va leur rappeler. J'attends pas les médias pour qu'on vienne me les raconter. Trop de mensonges, trop d'oubli pour nos héros. Du troca au terrain, du soupsi au globo. N'est-ce pas l'authentique? N'est-ce pas l'authentique? N'est-ce pas l'authentique? N'est-ce pas l'authentique? Donc en 92, je kick ma mère. Demande à Waf et Kéry qui c'est qui fout la merde. Dans ce rap game de pendu, je suis déjà banni. Ce n'est pas depuis Canal que je suis interdit. Mais je pète les concerts, remplis les salles. Garde mes éditions intestables en freestyle. Mon micro est brûlant, mes rimes le sont encore plus. Skyrock c'est pas Nova, maintenant je sais qui suce. Des hits, mais ma cote ne monte pas. Chez les majors ils savent qu'on ne m'achète pas. De Burtel, je suis vaniche, Pascal Nègre et j'en passe. Se sont cassés la bouche sur ma carrière et mes liasses. Mais j'en bats les steaks, le feu à l'Olympia. Encore une première fois pour mon groupe de combat. De toute façon l'industrie c'est pour Coca et McDo. Regarde le style d'artiste aujourd'hui qui suce leur lardo.